Bonsoir Pierre, on fait un spécial Iran au regard de la situation. Vous savez que l'Internet est coupé dans tout ce pays, qu'il y a de nombreux morts et que Khamenei accuse les protestataires de mettre le pays en très grand danger. Alors on commence avec Al Jazeera et l'intervention à la télévision du ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, qui déclare les protestataires tournent à la violence, c'est-à-dire il accuse les protestataires d'être à l'origine de la violence pour donner à Trump l'excuse d'une intervention. Les protestataires ont ouvert les feux, déclare-t-il, sur les forces de sécurité. Nous avons enregistré des messages audio et cela des messages audio donc qui donneraient ordre d'ouvrir le feu sur les femmes, les enfants et les forces de sécurité, des messages audio qui seraient détenus donc par les manifestants en situation de protestation. Les violences découlent de terroristes infiltrés. Ce terme de terroriste revient à plusieurs reprises dans la bouche des dirigeants actuels iraniens. Ils ont détruit des ambulances, ils ont détruit 200 commerces et nous avons des informations documentées, preuves à l'appui. Nous avons même, déclare le ministre des Affaires étrangères, un photographe. Nous avons les clichés qui nous montrent à la fois les terroristes et les armes distribuées. L'Iran ne cherche pas la guerre, mais y est pleinement préparé. Et l'Iran veut négocier et ne veut plus de sanctions sur l'Iran. Alors, sachant que l'Iran veut négocier, c'est effectivement confirmé par différents médias et par différentes sources. Il y aurait eu un appel téléphonique d'un officiel iranien, voire du guide suprême de la révolution, avec des autorités américaines. On ne nous dit pas qui. Ça pourrait être soit l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Witkoff, mais ça pourrait être également en direct avec la Maison-Blanche. Le flou reste. Puis nous avons Achar Kelwazat qui titre L'Iran est préparé à la guerre. La Chine, elle, est opposée à toute interférence étrangère en Iran. Mais nous avons également des condamnations allemandes des violences du gouvernement iranien contre ces protestataires. Et puis cette interrogation d'un éditorialiste dans Achar Kelwazat, comment Al-Qaïda et l'Iran se retrouvent unis en Syrie? C'est-à-dire qu'en fait, Al-Qaïda et la branche islamique qui est au gouvernement en Iran aurait des tentacules en Syrie. La transformation de l'Iran et la sécurité des pays du Golfe, c'est une autre analyse. Alors, pour revenir sur cette rencontre entre Al-Qaïda et l'Iran en Syrie, c'est Aboul Rahman Al-Rached, qui est un journaliste patenté. Il est à la fois le chef de la télévision Al-Arabiya, c'est l'ex-rédacteur en chef d'Achar Kelwazat. Il collabore également à la tête des rédactions d'Al-Madina et d'Al-Bilad. Et il nous explique que Al-Qaïda, qui pourtant a été normalement mise à plat en 2001 après les attentats contre le World Center, et que Al-Qaïda avait ses racines et s'était développé en Afghanistan, eh bien certains de ses leaders ont en fait émigré en Iran et ont retissé une toile de ce mouvement. Il nous fait un tableau de l'alliance de tous les extrémistes de la région et où se retrouvent en fait les chefs sunnites et les chefs chiites, qui peuvent en fait manier la déstabilisation régionale ensemble, malgré en fait des convictions spirituelles opposées. Comment ce qui se passe aujourd'hui à Téhéran peut être un danger pour la sécurité des pays du Golfe, s'interroge un autre éditorialiste. L'Iran est-il en fait au bord d'une implosion ou sommes-nous témoins d'une lente érosion régionale? Et cela change tout pour les pays voisins. Soit on a un Big Bang, on est face à un point de non-retour, on a un changement radical à Téhéran, ce qui implique un total nouveau leadership avec un nouveau programme politique et de nouveaux leaders, mais tous ces éléments, écrit le journaliste, ne sont peut-être pas réunis pour être mis en place. À ce moment-là, on est effectivement en difficulté parce qu'on a actuellement une rue iranienne qui est en flammes, mais en face, on a un régime qui reste quand même cohérent et debout, écrit l'éditorialiste. Et la communauté internationale continue à traiter avec le régime en place. Alors, ceci dit, ces lignes sont écrites avant qu'on apprenne ce jour par L'Orient le Jour, le quotidien libanais, que l'Union européenne et le Parlement européen ont décidé ce lundi d'interdire l'accès de toutes les institutions européennes à tout représentant ou mandaté des institutions officielles iraniennes. Le coût du changement peut être élevé à traiter, poursuit cet éditorialiste, c'est-à-dire le coût du changement iranien. L'implosion, c'est-à-dire le changement radical de la société iranienne, c'est le de scénario le plus dangereux pour les pays du Golfe, parce que cela signifie qu'ils ont à leur porte, aux portes de leur pays, le chaos, la violence ethnique, l'étranglement du contrôle institutionnel et un risque d'effusion de violence à l'intérieur de l'ensemble de la région. Alors, qu'est-ce qui peut à ce moment-là se passer? Une intervention régionale ou une intervention internationale pourrait pousser les pays du Golfe au cœur du conflit. Alors, ça, c'est le cas extrême. Que se passe-t-il si le régime iranien ne tombe pas et se limite à changer progressivement avec un turnover des élites actuelles, une évolution du discours révolutionnaire et une volonté de pragmatisme, d'adaptation des institutions en place? Alors, il y aurait possibilité à ce moment-là de ne pas exclure de toute façon le fait que la position internationale ne change pas, c'est-à-dire que les relations internationales continuent telles qu'elles l'étaient auparavant. Et à ce moment-là, qu'en est-il des pays du Golfe? Alors, ce serait quand même eux qui seraient le plus affectés sur le long terme, mais ça serait en même temps moins dangereux. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Iran est assiégé de l'intérieur, écrit le journaliste. Il peut être poussé à déclencher des conflits régionaux, c'est-à-dire que l'Iran utiliserait cette carte de conflits régionaux qui l'animerait lui-même, et ce serait ainsi une carte de pression pour les pays pour les pays frontaliers. Et le journaliste d'en conclure, la politique, c'est l'art d'éviter la calamité. Ce journaliste s'appelle Mohamed Al-Romaini. Nous poursuivons alors avec les quelques médias iraniens que j'ai réussi à consulter avec beaucoup d'efforts, vous vous en doutez bien, mais on y arrive quand même, notamment les agences de presse. Donc nous avons Tasmin News qui accroche à sa une Missile au-dessus de Bazam, c'est le fameux documentaire en hébreu sur la guerre des 12 jours. Et puis il nous montre des vidéos tournées ce lundi de millions de personnes dans les rues iraniennes pour soutenir le gouvernement et le guide suprême Ali Khamenei, c'est-à-dire des contre-manifestations. Et puis, nous avons également ce communiqué de Reza Pahlavi, le fils du Shah, qui lui publie sur X ce dimanche un très long message qui s'adresse aux Iraniens, un message en farsi, la langue des Iraniens. Et il y parle des institutions et des appareils du régime qui doivent devenir la cible légitime des protestataires. Il appelle toutes les populations à enlever le drapeau de la révolution islamique sur toutes les ambassades d'Iran dans les pays étrangers. Il appelle également, non, c'est pas qu'il appelle, il informe la population iranienne d'une aide internationale qui ne devrait pas tarder à arriver. Nous continuons avec un autre support de presse iranien qui s'appelle Adat Iran, qui lui aussi revient donc sur ces manifestations qui datent de ce lundi de soutien aux autorités iraniennes en place. Et Adat Iran pointe et accuse de sabotage Washington et Tel Aviv. Et puis nous avons cette déclaration du guide suprême iranien, les masses ne mentent pas, la souveraineté n'est pas à vendre. Nous revenons à Tasmin News, qui écrit il y a quelques heures, l'Azerbaïdjan est une nation altruiste et ne se séparera jamais de Khamenei. Là aussi, nous avons un reportage télévisé de provinces de l'Azerbaïdjan qui clament leur soutien aux autorités iraniennes en place. Il y a également l'agence de presse Far News et puis le reporter Dirim News. On voit un reporter sur un toit qui commente la foule qui défile dans les rues iraniennes pour soutenir Khamenei. Khamenei déclare il y a quelques heures, le complot américano-sioniste contre le peuple iranien subit aujourd'hui une nouvelle défaite retentissante. La République iranienne restera forte. Et ces déclarations sont faites au regard donc des manifestations de soutien au gouvernement iranien en place. Puis Gulf Today, hein, un des journaux des pays du Golfe, Téhéran met en garde Washington et Israël contre une attaque sur Israël et sur les bases américaines. C'est-à-dire que Téhéran informe, si effectivement Washington se met à déclencher une attaque, quelle qu'elle soit, armée militaire envers l'Iran, eh bien Téhéran répondra immédiatement sur Israël et sur les bases américaines. On a une source israélienne qui rapporte à Gulf Today. Donc, Gulf Today cite une source off israélienne qui affirme qu'Israël est en état d'alerte élevé face à une possible intervention américaine. Le porte-parole du Parlement iranien, Mohamed Bakr Kalibaf, s'est exprimé ce dimanche, donc c'est toujours rapporté par Gulf Today, devant le Parlement iranien. Et il s'est exprimé en ces termes. Laissez-nous être clairs. Dans le cas d'une attaque américaine, les territoires occupés, alors ce qui est mentionné territoire occupé dans le vocabulaire iranien, c'est Israël, autant que les bases américaines et les bateaux seront nos cibles. Puis nous avons également l'agence officielle là, syrienne, l'agence de presse Sanaa. Alors l'agence de presse Sanaa aujourd'hui ne nous parle pas de Téhéran. Il faut remonter un petit peu dans le temps, bon, pas très loin, il faut remonter à hier, 11 janvier, pour qu'il y ait une dépêche qui est consacrée à ce qui se passe en Iran. Les manifestations s'intensifient, titre cette dépêche, et le bilan s'alourdit, 65 morts. Il est mentionné dans cette dépêche une contestation iranienne qui est datée simplement à partir du 28 décembre. Nous savons les uns et les autres qu'elle remonte à bien avant. Il est mentionné 51 tués, 2270 arrestations et 14 membres des forces de sécurité tués. On nous explique dans cette dépêche que les manifestations ont commencé. Elles n'ont pas commencé. On dira qu'elles se sont envolées, développées. Mais l'agence Sanaa, qui est agence syrienne, pays frontalier avec l'Iran, se doit effectivement sans doute d'une certaine précaution pour sa propre sauvegarde de son pays. Et on nous y parle effectivement des derniers événements comme étant l'allumette qui déclenche le feu, la dépréciation monétaire, la baisse du pouvoir d'achat. Et Sanaa se cache derrière des déclarations d'Amnesty International pour expliquer que les forces de sécurité ont fait un usage illégal de la force létale. La force létale, ça veut dire celle qui donne la mort, hein, et mentionne qu'il y a davantage de morts et de blessés ces dernières heures. Ali Khamenei revendique que effectivement les protestataires seraient légitimes dans leurs revendications économiques. On est toujours dans la dépêche de l'agence de presse syrienne. Et on nous rapporte les propos du président iranien Massoud Pezeshkian qui déclare le gouvernement assume la responsabilité de la crise économique et il appelle de façon très modérée à ne pas pointer des responsabilités extérieures, ce qui signifie qu'il ne souhaite pas, le président iranien, mais vous savez que le président iranien a très peu de poids politique dans ce pays, c'est le guide suprême qui a entre les mains toute la politique du pays, mais toutefois, il s'est exprimé publiquement et cela signifie que quand il ne veut pas qu'on pointe les responsabilités extérieures, c'est qu'il ne veut pas que cela s'enflamme ni du côté américain ni du côté israélien. Et puis nous allons terminer avec le quotidien libanais L'Orient le Jour, donc qui nous informe il y a quelques instants que les ambassadeurs européens sont convoqués à Téhéran. Cela signifie-t-il qu'ils vont être expulsés ou cela signifie-t-il qu'ils ont été convoqués uniquement pour, je dirais, se faire remonter les bretelles? On en saura un petit peu plus dans la journée. Donc, ce sont les pays d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie et de France qui sont convoqués. Et puis, le ministre des Affaires étrangères a pris contact. Donc là, c'est officiel. Il a pris contact avec Witkoff, l'envoyé américain au Moyen-Orient. Il souhaiterait que les relations entre Téhéran et les États-Unis ne soient pas rompues et qu'on puisse dans les prochains, enfin, qu'ils puissent dans les prochains jours arriver à une médiation. Les canaux resteraient ouverts, des canaux neutres qui seraient en fait des médiateurs. Et cette information, elle est donnée en plus par le porte-parole, pas par le ministre lui-même, mais par son porte-parole, Esmaël Baghi, qui dit qu'il pourrait y avoir une rencontre en Suisse. Eh bien, Pierre, je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur ce qui se trame à Téhéran. Et je vous dis à la semaine prochaine.